Paul Bergerat, La Vénus vitriolée. Le soir était venu, l'atelier s'assombrissait. Il fallait clore la séance. Le sculpteur l'aida lui-même à se rhabiller. Depuis 2 mois qu'elle lui posait, comme Pauline Borghèse à Canovas, son anadiomène, il était devenu bonne femme de chambre. En 5 minutes, elle fut sous les armes, corsetée, chaussée, robée, puis chapeautée et gantée. Il ne restait plus qu'à baisser la voilette pour traverser cette villa d'artistes dont une année centrale, bouclée de beaux tilleuls, desservait les jardinets. Elle l'embrassa à pleines lèvres. « À demain, dit, à toujours !» Il tourna la clé dans la serrure, ouvrit la porte, et la chère Vénus s'enfuit. Il revint à sa statue, qui tremblait de vie dans la pénombre, et comme il s'apprêtait à en humecter la glaise, un hurlement de bête égorgée déchira l'air de la petite cité. C'était la voix de Marina. D'un bond de tigre, il fut sous les tilleuls, et devant le puits de l'allée, elle était étendue, toute palpitante, les deux bras ramenés en croix sur le visage, et elle criait éperdument. Tous les artistes arrivaient l'un après l'autre, offrant leur service. « Laissez, dit Pétrus, un médecin seulement. » Et le statuaire, qui était d'une force athlétique, la souleva comme de l'ouate et l'emporta entre ses bras à son atelier. Elle était vitriolée. Le célèbre statuaire Falguière, qui le siècle dernier fut le maître de la décoration monumentale et le chef de l'école toulousaine, n'a jamais eu d'élève dont il fut plus fier que de Pétrus Limon. J'ai entendu 20 fois moi-même lui présager gloire et fortune. « Tu verras, me disait-il de sa voix chaleureuse et chantante, c'est le sculpteur de la femme moderne. S'il trouve le modèle de son idéal, il les enfoncera tous, moi, Paul Dubois, Mercier et les autres. » Or, Pétrus avait rencontré Deo Violante, ce modèle en Marina, simple commerçante du quartier, mariée, je crois, à un charcutier. Inutile, comme on voit, d'aller perdre 4 ans de sa vie à Rome. Aucune femme de Paris n'est insensible, elle ne peut l'être, à l'adoration qu'elle inspire à cet ouvrier de la beauté qu'est l'artiste. Outre qu'il avait le verbe prenant de son maître même, il était de la race ensoleillée, trempée en jeune Alcide, et sa volonté d'amour lui flambait aux yeux. Aussi le fût-ce par long, elle alla à son sort terrestre et sans songer à l'autre. Depuis 2 mois, elle lui incarnait, debout et sans voile, l'Aphrodite naissant de l'écume de la mer. Le désastre était effroyable. Sous l'action corrosive de l'acide sulfurique, le pauvre charmant visage, si pur de galbe, si tendre de ligne, couronnement d'un corps triomphal, chef-clé de sa forme voluptueuse, coup de pouce enfin du divin modeleur des types et des espèces, n'était qu'une éponge sanguinolente où s'embroussaillaient les cheveux et la voilette. Un interne ami, ramené par ses camarades, était accouru presque aussitôt, et déjà muni des objets nécessaires au premier pansement, il souleva d'abord l'une et l'autre paupière, obstinément scellée de la martyre, puis il l'anesthésia au chloroforme et prépara ses bandelettes. Un coup d'œil jeté à l'anadiomène lui avait éclairé la situation. « Qui est le vitrioleur ? » demanda-t-il à Pétrus. « Ou la vitrioleuse ?» Mais le sculpteur se détourna sans répondre. Du reste, il ne pouvait rien dire. Les artistes de la villa n'avaient vu personne et Marina n'avait encore ouvert la bouche que pour vociférer lamentablement. Mais est-ce que vous ne ferez pas votre déclaration au commissaire ? Non, elle est ma femme, fut la réponse à laquelle l'interne se méprit. Alors, aidez-moi à la mettre au lit, ou plutôt déshabillez-la vous-même. L'acide a pu l'atteindre aussi sur quelques parties du corps, il faut voir. Pétrus prit l'endormi sur le genou, et habile à l'office familier, il l'eut bientôt dévêtu et déposé sur sa couchette. Rien, grâce au ciel. Les bras préservés par l'étoffe des manches, les mains sauvées par les gants, le torse indemne. De cette part de l'Aphrodite, l'artiste gardait tout, l'amant aussi. Mais la tête, oh la tête, miséricorde! Que restait-il du beau front hellénique, celui des filles de Jupiter, ourlé comme la vague de l'écume d'or et de la chevelure? Du double arc-en-ciel des sourcils, plongeant dans la brume bleuâtre des tempes, des oreilles conques perlières d'une grotte de stalactites, du cher petit nez, timon du char nautique d'Amphitrite, dont les narines lumineuses s'ébattaient comme des dauphins au soleil, de la bouche adorée, que l'attente de l'éternel baiser épanouissait et teintait de tous les iris de l'actinie, ouverte dans les algues à la caresse des flots montants, du menton de dés de quartz arrondi, qu'il comparait au promontoire des îles grecques, et de ses joues à la pulpe de fruits, à la cuticule de fleurs, dont il lui fallait modeler les oves, comme on dessinerait un reflet de la lune sur la mer. « On pourra sauver les yeux !» fit l'interne. « Quoi, seulement ?»« Oui. » Il m'expliqua que les globes n'étaient que légèrement touchés et que tout dépendait du degré de perforation des paupières. Sur ce point devait porter la cure, difficile d'ailleurs, d'une délicatesse extrême et qui réclamait une assiduité constante d'observation et de soins. « Je vais aller moi-même vous faire préparer le collyre, mais vous devriez, et ce serait plus sage, me la laisser transporter à mon hôpital, j'y veillerai de plus près au pansement. » Une absence d'un quart d'heure, un assoupissement sur votre fauteuil de garde-malade, une distraction, suffirait à achever l'œuvre de destruction du visage. Elle serait aveugle à jamais. Ben, allez me chercher le collyre, dit Pétrus. Pendant les trois premiers jours, doublés de leur nuit, le sculpteur, assis ou debout, ne quitta pas une seconde Marina, même du regard. L'interne lui avait tracé minutieusement la ligne thérapeutique à suivre et il venait à chaque instant s'assurer de la bonne marge du traitement. « Ma foi, déclarait-il en lui serrant la main, vous êtes un infirmier admirable, à quel moment pâturez-vous ?»« Oh, je ne sais pas, souriait l'artiste. On m'entonne de la bouillie, comme aux gosses, des camarades de la villa. Mais il n'y a plus d'heure, ni de matin, ni de soir. » Elle verra, n'est-ce pas? Moi, j'espère. Surveillez bien cette nuit encore. Ça va, bravo. Voulez-vous que je vienne vous réveiller? Merci, non. À demain. Il n'y avait en effet rien à craindre. Non seulement Pétrus Limon, en qui la volonté virtualisait, pour ainsi parler, l'athlétisme, était déterminé à lui conserver la vue, mais il était résolu à bien d'autres choses encore. Il roulait donc ses divers projets dans l'ombre nocturne, au pied du lit de la malade, sous la lampe à demi baissée, lorsque, lentement redressée, Marina, d'une voix étouffée par les compresses, murmura distinctement « Un miroir !» C'était son premier mot. Il signait la femme, certes, et toutes les femmes, mais il terrifia le sculpteur, puisque ne l'avait fait toutes les clameur de brûler vive. Se voir, elle voulait se voir. Oh, mon Dieu, dans l'état de défiguration où le corrosif l'avait mise. Qu'allait-il faire? Comment parer à cette curiosité dont l'effet allait être épouvantable? Quel prétexte, quelle défaite, plus claire encore que le refus pour elle. Un miroir à la Vénus vitriolée. « Le médecin ne te le permet pas encore, ma chérie. Pas d'imprudence, non. »« Mais j'y vois, » insistait-elle en écartant le bandage. « Je t'assure que j'y vois. »« C'est un peu confus encore, mais je te distingue très bien, mon Pétrus. Tu es là, derrière l'abat-jour de la lampe. Donne-moi ton petit miroir. Il est au mur de l'atelier. »« Tu veux pas? Je suis donc devenu un monstre ?» Il se leva, glacé de sueur froide, et d'un tour de main rapide, il éteignit la lampe. Il n'y a plus d'essence dans la torchère, s'écria-t-il en éclatant de rire. Elle est bien bonne. Et, se penchant sur elle, il l'embrassa sur ses tristes yeux à peine dessillés, comme on embrasse une morte. Puis il la berça doucement, tout doucement, avec des chuchotements d'amour, entre ses bras puissants de manière de terre, jusqu'à ce qu'elle fût bien endormie. Alors il prit le collier et le jeta dans les tilleuls par la baie de l'atelier. Puis, avec son chapeau et son gourdin, il s'en alla heurter à la porte d'un peintre voisin qui était corse et dont il aimait le caractère rebelle au compromis de la société continentale. Quand ils revinrent à l'aube, Marina n'avait plus besoin du miroir, étant aveugle. 2 ou 3 jours après, dans les feuilles, une nouvelle diverse relevait, entre autres suicides, celui d'un charcutier du 6e arrondissement, dont on avait retrouvé le cadavre dans les filets de Saint-Cloud, avec la justification de sa mort volontaire. J'ai assisté, à côté de Falguière, au mariage de Petrus Linon avec Marina, l'année de sa médaille d'honneur pour l'Anna Diomène. Ce fut le maître de Toulouse qui mena la mariée à l'hôtel. Elle était voilée d'un épais crêpe bleu foncé qui l'enveloppait, comme une décapitée de légende, jusqu'aux épaules. La moitié de l'institut était là, toute la villa des Tilleuls. Le peintre corse servait de témoin au jeune sculpteur triomphant.